Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville. Ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Le Guide de l'auto.
Hugues, comme à chaque semaine, tu nous parles de voitures anciennes et j'aime beaucoup ta chronique de cette semaine parce que là, tu te concentres sur un modèle qui a toujours été intriguant pour moi. On va parler de la Buick GNX, une des dernières Buick vraiment, vraiment cool qu'il y a eu sur le marché. Alors oui, Buick a déjà été une marque qui a attiré de jeunes acheteurs et des gens qui cherchaient de la performance.
Exactement, parce que ça peut paraître étonnant pour le client d'aujourd'hui, mais Buick a déjà été une marque cool. Déjà dans les années 60 et 70, avec des modèles comme les GS et spécialement la GSX, qui était une vraie bombe.
Ouais.
Et ensuite avec la GNX, qui dans les années 80 était capable de remettre à leur place sur un 400 mètres des Ferrari et des Lamborghini.
Faut le faire quand même.
C'est pas si mal.
Mais ça a commencé comment cette aventure-là? Parce que, bon, pour situer les gens, la Buick GNX, c'est essentiellement une régale de performance qui était l'équivalent chez GM de la Monte Carlo, de la Cutlass Supreme et chez Pontiac de la Grand Prix.
Voilà.
Mais on avait une version plus performante que partout ailleurs.
Alors en fait, ça s'est démarré avec la Grand Nationale. Et pourquoi il y a une Grand Nationale? C'est parce que Buick a gagné le championnat de NASCAR en 1981. Et pour célébrer ça, ils ont sorti une série spéciale en 82 qui a été fabriquée à seulement 215 exemplaires. Elle a été en deux tons noir et gris avec des liselés rouges.
Ouais.
On peut la distinguer comme ça. Alors, cette Grand Nationale pouvait venir avec le V6 atmosphérique de 125 chevaux. Là, on n'est pas dans la sportivité bambin.
C'est triste un peu.
Ou avec le moteur turbo de 175 chevaux.
Qui était, pour l'époque, pas si mal. Parce qu'à cette époque-là, 175 chevaux, c'était de la puissance. Là. Surtout que c'était pas un 8 cylindres.
Non.
Et la Monte Carlo, avec un 8 cylindres, faisait même pas ça. Là.
Non. Et en fait, Buick a récupéré ce moteur-là. Ils ont commencé en 73 à développer ça pour répondre à la crise du pétrole.
Ouais, ouais.
Et le premier V6 turbo est apparu en 76 sur un pace car.
OK.
Au 500 000 d'Indianapolis. Et le premier V6 turbo de série est sorti en 1978. Il faisait alors 150 chevaux.
Mais là, 150 chevaux, il n'y a pas grand-chose là-dedans.
Non,
là.
Non, non. Heureusement, le moteur va régulièrement évoluer.
Ouais.
Buick va le travailler très régulièrement. Et ça commence à être intéressant à partir de 1984. Parce que là, le moteur est vraiment retravaillé. Il y a des nouveaux arbres d'équilibrage, un allumage sans distributeur, une injection électronique Bosch. Et là, on commence à avoir 200 chevaux et 300 livres-pieds de couple. Donc à l'époque, il faut savoir que une Corvette faisait 205 chevaux et une Mustang GT en faisait 175. On est déjà là, proche du haut.
Mais pas avec un 8 cylindres, avec un V6 turbo compressé, donc avec une livraison de puissance qui est complètement différente. Puis écoute, moi, je me souviens d'entendre Michel Barrette me parler de sa Grand Nationale.
Mm-hmm.
Il a adoré cette voiture-là. Il dit ça a été une voiture tellement rapide que j'en ai récemment racheté une. J'ai des souvenirs impérissables avec cette voiture-là. Mais c'était extrêmement rapide, probablement parce que c'était léger. Là.
Il y a ça. Et puis, le V6 était vraiment bien travaillé et avait une réponse et un couple très disponible. Et en fait, avec l'apparition de ce nouveau moteur en 1984,
ouais.
La vraie Grand Nationale apparaît à ce moment-là. Peinture noire, pare-choc noir, roue spéciale, spoiler, béquet, siège baquet, le logo spécifique qui représente un turbo stylisé. Et en fait, on en voit beaucoup, mais en 84, il n'y en a eu que 2000 de fait.
OK.
Pas plus.
Et en 85, l'échelle nord-américaine.
À l'échelle nord-américaine. Ouais, ouais. Et en 85, 2102.
OK.
C'est
donc,
tout.
Donc, ce sont des voitures rares. Puis 86-87, il y a eu une production qui a été plus grande.
Alors, oui.
Et la T-Type était où là-dedans? Parce que la T-Type exploitait un peu les mêmes motorisations, mais avec une formule moins sportive. Dans le
ben, c'est ça. En fait, là, c'est Le catalogue Buick à cette époque-là est un peu compliqué. Il y a la T-Type avec ou sans turbo, il y a la Grand Nationale, il y a une série limitée qui est à peu près inconnue, qui est la WE4, qui est une Grand National, mais sans les bébelles de Grand National. C'est okay. un truc absolument introuvable. et puis après, il y aura en plus la GNX. Comprendre le catalogue Buick à cette époque-là, c'est, ça demande beaucoup de finesse.
Mais l'intérêt des ingénieurs de Buick, qu'est-ce que ça donne à Buick de créer des voitures comme ça à une époque où l'image de Buick, c'est celle de voitures de luxe? On est juste en dessous de Cadillac. On n'a pas l'image d'une marque de performance. Il y a Pontiac qui, de plus en plus, essaie de se l'accaparer. Et dans la même grande famille, tu as la Monte Carlo SS.
Bien sûr.
Alors, arriver avec une GNX, bon, faut souligner que la GNX n'a pas été vendue au Canada, elle a été vendue uniquement aux États-Unis, mais la GNX, c'était le Saint Graal, là. Là, c'était rendu, on était dans une machine hyper sérieuse.
Ben, c'est ça. Mais alors, en fait, pour comprendre l'origine de la GNX, il faut remonter à 86. Là, le moteur évolue encore. Il y a un nouveau refroidisseur RR qui est installé. Et là, on monte à 235 chevaux. 330 livres-pieds de couple. Donc wow. Là, on commence à être quelque chose. Et pour dire, une GN de 86 réalise un 0 à 60 en 6 secondes et un quart de mille en 14,7 secondes.
Donc ce qui est très rapide à l'époque.
On est quand même dans quelque chose de sérieux. Mais apparemment, vu que la valve de turbo peut être ajustable, il semblerait que GM ait mis un petit coup supplémentaire. Et okay. Donc, la puissance augmente encore en 87 à 245 chevaux.
Ouais.
Et là, les chiffres de production montent. 5512 exemplaires en 86 et 20 193 wow. exemplaires en 1987.
Alors, puis la plupart des unités qu'on voit, évidemment, ce sont des modèles 87.
Effectivement.
Il y en a eu énormément. Mais 87, là, tu parles évidemment de la Grand Nationale, pas de la GNX encore.
Au total.
OK. Parce que la GNX, c'est une petite série là-dedans.
Tout à fait.
Alors, c'est quoi les distinctions de la GNX par rapport à la Grand Nationale?
Oh là là, il y en a beaucoup. En fait, l'esthétique extérieure change. Il y a des élargisseurs d'ailes.
Ouais.
Pour un sport.
Jantes.
Les jantes noires en 15 pouces. À l'intérieur, le moteur est largement modifié. Nouveau turbo, Garrett Air Research. T3, turbine en céramique,
ouais.
électronique reprogrammée, nouveau refroidisseur RR, échappement double à faible restriction, et le moteur est donné à ce moment-là pour 276 chevaux. En réalité, il semblerait qu'on ouais. soit plus dans les 300.
C'est incroyable. Pour une mécanique de ce genre-là, à cette époque-là, c'est une machine absolument fantastique. Et ça donnait quoi comme niveau de performance sur la route, ça?
Bah, il y a d'autres modifications en plus que le moteur, parce que tu vas voir que...
Ouais, il faut que le châssis suive. Ouais. Là.
La boîte est modifiée, nouveau composant intérieur, nouveau refroidisseur qui n'était pas dans la Grand Nationale, châssis renforcé, suspension arrière redessinée, nouveaux amortisseurs, nouveaux ressorts, nouveaux barres anti-roulis, et à l'intérieur, il y a aussi des nouveaux cadrans et une plaque qu'indique le numéro de série. Parce qu'il faut savoir que ces voitures-là ont été, dès le début, conçues pour être une série limitée. Il y a un chiffre qui a été calculé d'avance qui est 547.
Ce qui est rien.
Ouais, mais pourquoi 547?
Ah, ça c'est la grande question.
Il y a une
raison.
Ok. Buick, au départ, voulait donner 500 voitures à ses meilleurs dealers.
Ok.
Et ensuite, le président de Buick a dit, on a un club qui s'appelle le Select 60, qui est vraiment les 60 meilleurs concessionnaires d'Amérique du Nord, et à eux, on va leur donner deux voitures. Sauf qu'en 86, les Select 60, il n'y en avait que 47 qui remplissaient les critères d'excellence
okay.
de ce club. Donc, il y avait les 500 voitures pour les meilleurs dealers, plus les 47 qui étaient prévus pour qu'ils aillent top du top, qui étaient les 47 dealers, et ces 47-là ont eu... Deux autos.
Deux voitures. OK. Évidemment que ça devait être une voiture qui coûtait très cher.
Ouais.
Parce qu'évidemment, là, déjà, une Grand Nationale, c'était pas donné. Là.
Alors, à l'époque, une Grand Nationale, ça coûte $15,136.
OK.
US. Et pour comparaison, une GNX, c'est $29,280.
Okay,
c'est pratiquement le double.
C'est pratiquement le double. C'est énormément.
Malgré ça, la demande est forte. Pourquoi? Parce que, en fait, les magazines capotent sur la voiture. C'est une véritable bête de drague.
Ouais.
Le magazine 40 Driver freine un 0 à 100 en 4 secondes 7.
Il n'y a rien qui arrive avec ça.
Il n'y a rien qui arrive avec ça. Et un quart de mille en 13,5 secondes à 164 km/h. C'est une catapulte.
Ouais, ouais, ouais.
Il y a d'autres magazines qui feront des temps un petit peu moins bons, mais disons que la barre, elle est placée et c'est largement suffisant pour humilier des Corvettes et d'autres engins exotiques qui coûtaient 5 à 10 fois le prix.
Même une Lamborghini Countach suivait pas ça, là.
Non. Sur un quart de mille, non.
C'est après, incroyable.
Parce que après, il faut savoir que la vitesse était électroniquement limitée à 200 km/h à cause de la cote des pneus.
Des pneus. OK. Oui, puis on s'entend que ça devait pas être la voiture la plus stable au monde.
Bah, c'est pas. Le redesign de la suspension arrière a fait beaucoup pour rendre les choses.
Mais les lois de la gravité étant ce qu'elles sont, à un moment donné, tu as des limites. Là. C'était une
exactement.
Voiture assez angulaire, assez haute sur pattes. C'était pas.
Non, c'est donc... clair. Mais disons que GM et les gens en fait, d'ASC McLaren, qui était une petite compagnie à part.
Ouais.
Qui avaient assuré une partie du développement et qui ont aussi assuré la production sur une chaîne complètement spécifique. ASC McLaren a fait un très très bon travail de développement.
Alors disons que j'avais assez de sous en poche en 1987 pour me procurer une GNX. J'ai déboursé les 30 000 $ américains.
Non. Parce qu'en fait, il y a tellement de demandes que les concessionnaires vont charger souvent 20 000 $ de plus.
Ah oui, en surenchère.
En surenchère. Et il se raconte même qu'il y aurait une voiture qui serait partie à 75 000 $ US.
Et aujourd'hui, ça vaut?
Alors, ça, c'est la question. Aujourd'hui, ça vaut, selon l'État, entre 150 000 et plus de 200 000 $ US.
Évidemment, ben, au Canada, il n'y en a à peu près pas. Probablement quelques
causes. Moi, j'en ai vu une à Montréal.
Ouais, OK.
Mais effectivement, ce n'est pas des voitures qui sont très, très courantes. Il y a eu des importations grises ensuite. Mais c'est des voitures qui ont été chouchoutées, doudounées, parce qu'en fait, les gens qui l'ont acheté à l'époque, la grande majorité.
Ils savaient déjà que c'était un déplacement.
Exactement. Ouais, ils les ont achetées pour ça, en se disant on les met dans des bulles et on attend. Et en fait, j'ai trouvé un chiffre qui est très intéressant qui dit, oui, c'est un investissement parce que payer 30 000 en 87, revendu 200 000 aujourd'hui, c'est pas mal. Mais si tu avais investi 30 000 $ dans une action Microsoft en 87,
ouais.
ça vaudrait des millions et des millions de dollars aujourd'hui.
Okay.
Donc, il y a investissement et investissement. Et je pense qu'en fait, la leçon, c'est de se dire, ben, même ce genre de voiture-là, pour les acheter, ben, autant en profiter, quoi.
Ah, puis aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que ça peut grimper au-delà des 200 000
$. Ça va. Il y a des voitures qui ont touché le 300 000, mais là, c'est des véhicules dans un état exceptionnel,
low
mileage, 100% original. C'est des véhicules qui n'ont pratiquement pas roulé. Ça sert à rien.
Ben, ça sert à rien. En même temps, c'est rarissime. Les grands nationales, il y en a beaucoup. Parce que ça, les gens les ont conservés, les ont restaurés. Et il y a quand même un certain plaisir à avoir avec ces voitures-là.
Alors, les grands nationales, il y en a beaucoup, surtout des 87, parce que les chiffres ont plus que triplé par rapport à l'année d'avant. Et le truc à savoir, c'est que la raison de ça, bah, c'est que les acheteurs savaient qu'il y avait une traction avant qui s'est abonnée en 88. Il y avait un tout nouveau modèle. Et ils se sont précipités sur ce modèle-là en disant
ouais.
C'est la fin de la fin, là, il n'y aura plus de propulsion, les bagnoles de sport vont disparaître, tout va passer traction avant. Ils ont même été obligés de prolonger la production de ce modèle-là jusqu'en décembre 87 pour soutenir la demande. Donc ces bagnoles-là, elles sont trouvables. Les plus intéressantes sont les modèles 86-87 avec les bons moteurs, mais je dirais que même qu'une 84-85 en très bel état, ça reste un super beau jouet.
Et c'est drôle parce que si tu compares versus les équivalents des autres marques, on a étiré la production de la Monte Carlo et de la Cutlass Supreme jusqu'en 88.
Absolument.
Avec les anciens châssis, évidemment.
Ouais.
Alors que Buick, ça s'est terminé en 87.
Bah, c'était une des premières marques à lancer la nouvelle Régale. Puis le châssis, ce qu'ils appelaient le châssis GM10, traction avant, était hautement stratégique pour la marque. Et il fallait démarrer. Donc, ils étaient déjà très, très en retard dans ce programme. Donc... Là, ils ne pouvaient pas se permettre.
Mais c'était fini. Le fun était fini.
Le fun était fini.